Bonjour. Beaucoup de plaisir à entendre des personnes qui prennent voix dans la prière. Avant le Covid, là, il y avait souvent des temps de prière libres. Alors, ça faisait trois prières. Il y en avait un. Ah ouais, c'est lui. Ah oui, c'est l'autre qui est là-bas. Alors, merci. Prenez voix par des prières courtes. Je crois que ça fait vraiment plaisir au Seigneur et à chacun d'entre nous d'entendre votre prière spontanée, orale, même si elle n'est pas parfaite, que vous soyez bénis par ça. Je vais commencer par deux lectures qui auront trait à la deuxième partie de mon message qui concerne la transmission transgénérationnelle. Le premier se trouve dans Proverbe 4, versets 1 à 6. Je vais le lire dans ma version. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur te retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne t'abandonne pas, elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Et puis dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 2, 2, 1 et 2, un texte assez connu, où Paul, comment ça se fait que je n'ai pas mis mon... où Paul s'adresse à son enfant, Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, ce que tu as entendu en moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et puis alors, le premier texte, un peu surprenant, je me suis exercé pour ne pas crocher à la lecture de ce texte dans Matthieu 1, 1 à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérès et Zérak de Tamar. Pérès eut Etsmon. Etsrom eut Nadab. Nadab eut Nakson, Nakson eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe et Isaü eut David. Le roi David eut Salomon de la femme du riz. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram, Joram eut Ozias, c'est bientôt fini. Ozias eut pour fils Jotham, Jotham eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias, Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel, Shealtiel eut Zorobabel, Zorobabel eut pour fils Abioud, Abioud eut Eliakim, Eliakim eut Azor, Azor eut pour fils Sadoc, Sadoc eut Hakim, Hakim eut Eliod, Eliod eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Matan, Matan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. L'évangile de Matthieu s'ouvre donc sur la généalogie de Jésus. On trouve une autre généalogie dans Luc 3, 23, qui part de Jésus et de son père Joseph et descend jusqu'à Adam, fils de Dieu, tandis que celle de Matthieu part d'Abraham et remonte à Jésus via Marie. Il y a d'ailleurs quatre autres femmes qui sont citées dans la généalogie que nous venons de lire, qui sont aussi quatre autres drames. On cite, il était cité Tamar, qui subit une relation incestueuse avec son beau-père et qui engendre Pérez. Il y a Rahab, une prostituée, incorporée au peuple d'Israël par son héroïque sauvetage des espions à Jéricho du temps de Josué. Il y a Ruth, la Moabite, une Syrienne clandestine, réfugiée clandestine en Israël avec d'autres dieux, qui après une incroyable saga à laquelle la Bible consacre quatre chapitres, va donner naissance à un fils à travers son époux Boaz, et qui, elle, sera l'arrière-grand-maman du roi David. Et enfin, Bathsheba, victime d'une relation non consentante avec le roi David, qu'il épousera plus tard et qui donnera naissance à Salomon. Enfin, n'oublions pas Marie, cette jeune adolescente enceinte avant mariage. Dieu, en Jésus, s'invite dans le monde des hommes, dans une descendance qui porte tous les drames discriminatoires, notamment envers les femmes. Mais on peut lire aussi, on peut imaginer qu'à travers les autres hommes qui sont cités, il y a tous les drames d'humanité. N'y a-t-il pas eu, durant ces générations, des déportations, des famines, des guerres, ou peut-être aussi des pandémies? La naissance de Jésus est donc le premier signe de la victoire de la vie sur les drames de l'histoire et sur les drames du péché. Et toi, n'es-tu pas donc aussi, quelles que soient les terribles, souvent histoires inconscientes de tes générations précédentes, de ta propre généalogie, n'es-tu pas le signe intangible de ta valeur, de ta vie, à travers ta vie, de ta valeur aux yeux de Dieu? Et là, j'aimerais m'adresser particulièrement aux jeunes, dont la génération distille un discours anxiogène avec le choix de ne pas faire des enfants. L'aérostier Bertrand Piccard parle d'une génération sans espérance, d'une génération victime d'une psychose sans espérance. Alors que paradoxalement, dans les pays les plus pauvres du monde, par exemple le Niger, qui subit la désertification, des risques de famine, la moyenne nationale de naissance par mère, par maman, est de 7 enfants. Dans un pays pauvre, chaque naissance est une fête, c'est une joie, c'est un cadeau. Ne dit-on pas en Afrique qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant? Alors que chez nous, un enfant, c'est souvent une surprise, voire une difficulté. C'est donc quand même le tout premier ordre de Dieu dans la Genèse que Adam reçoit et que Chouraki traduit par « fructifiez et remplissez la terre ». Donc, première leçon ce matin, chers amis, un enfant est un signe d'espérance. Et vous, les jeunes, vous êtes un signe d'espérance. Au Kyrgyzstan, pays entre la Chine, le Kazakhstan et la Mongolie, chacun doit connaître sa généalogie jusqu'à 14 générations en arrière. Et cette tradition est respectée. C'est souvent des clans. Alors très rapidement, j'aimerais vous demandez de vous lever et vous vous tournez vers une personne que vous ne connaissez pas. Levez-vous, s'il vous plaît. Une personne, voire deux personnes, pas plus, et vous allez lui dire le nom et prénom de votre arrière-grand-parent ou votre arrière-grand-mère, quel que soit maternel ou paternel. Et si vous ne trouvez pas, eh bien, citez vos grands-parents, le prénom et le nom de vos grands-parents, si vous n'arrivez pas à trouver. Voilà, je vous laisse vous rasseoir. Je vous laisse vous rasseoir. Vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'à 14 générations, hein. Dans le canton de Vaud, quand j'étais enfant, mon grand-père plantait un noyer, quand j'étais tout petit, dans le but que quand je serai adulte, je puisse fabriquer des meubles pour mes propres enfants. Un meuble, il s'agissait de couper le noyer, de faire du bois et de faire une commode ou une armoire avec ce noyer et dire... C'est ton arrière-grand-père qui a planté cet arbre. Vous voyez la mémoire. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de noyers dans le canton de Vaud. On a dû les arracher pour construire des immeubles. Dans la généalogie de Jésus que nous venons de lire, Dieu va s'autoriser de couper cette généalogie. Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu va stopper net la généalogie humaine de Jésus que nous avons lue. La mort de Jésus est donc une... On va célébrer vendredi saint prochain. La mort de Jésus est donc une coupure générationnelle humaine. Mais sa résurrection et surtout l'envoi du Saint-Esprit à Pentecôte sont le socle à travers... lequel l'Église primitive va pouvoir naître et elle va inaugurer une nouvelle famille, celle des enfants de Dieu. Parmi les très nombreuses citations dans les Épîtres et dans les Évangiles, je cite Éphésiens 1:5, « Vous avez été prédestinés à être ses enfants. » Nous sommes donc... Alors comment sommes-nous des enfants de Dieu ? Et là, je reviens à cette question de Nicodème qui pose à Jésus de nuit. Comment est-ce possible ? Et je vous propose de lire Jean 3, versets 4 à 8. Je vais le lire au... C'est plus simple, c'est trop petit. Nicodème lui dit, comment peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Par le Saint-Esprit reçu en Jésus, nous sommes donc le fruit d'une bénédiction que nous sommes appelés de transmettre de génération en génération. Et les communautés chrétiennes sont des maternités, ce sont aussi des crèches, ce sont des écoles de formation et d'éducation intergénérationnelle. Alors nous arrivons à un deuxième mot-clé, après celui de généalogie, c'est celui de génération. La Bible parle de bénédiction qui s'étend jusqu'à 1000 générations pour toi et tes enfants. Les psaumes célèbrent la fidélité, le refuge, la mémoire, le sujet de joie, la domination, la crainte du Seigneur de génération en génération. En hébreu, le mot « génération » se traduit par le mot « dor », D-O-R. Il signifie littéralement « tisser des paniers ». Vous êtes dit, il va prêcher sur la multiplication des pains. Eh bien non. Pour tisser un panier, il faut passer un fil ou de la paille entre les lanières avec la lignée précédente. Un panier se réalise toujours de bas en haut. Chaque nouvelle rangée est une nouvelle génération qui s'accroche, qui s'ancre à celle qui l'a précédée et qui lui a donné naissance. Elle va donc constituer à son tour un support solide pour la rangée de la génération suivante. C'est le sens des versets qu'on a lus tout à l'heure dans 2 Timothée 2:2, Paul à Timothée. Alors je vous laisse passer le panier pour vous admirer. J'ai envie de dire que l'once, c'est quand Jésus-Christ revient enlever son Église. Mais l'Église, c'est ça. Et ça commence par en bas. Et les jeunes, vous êtes pour le moment le dessus du panier. Alors, il faut me le ramener parce que ma femme... On a dit, les communautés chrétiennes sont des crèches, sont des cliniques, enfin des, elles donnent naissance des écoles, des maternités. Et c'est dans un souci de transmission que l'apôtre Jean écrit dans ses épîtres à ses petits-enfants. Il les nomme affectueusement. Et Paul se pose aussi comme un père spirituel pour plusieurs futurs apôtres, tout en précisant... Et je vais le lire dans 1 Corinthiens 3, 21 à 23, si tu peux. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Un père spirituel et cette rangée précédente et générationnelle est le Saint-Esprit et cette lanière qui nous relie à lui pour être tissé dans l'Esprit. C'est donc un échange. Je peux avoir 15 ans et être père ou mère spirituelle pour un enfant de l'école du dimanche, de potentiel, ou dans le cadre d'un camp que je vais faire à Arziers. Moi, je me souviens d'une petite dame âgée à l'école du dimanche quand j'étais enfant, mademoiselle Edwige, elle était très pauvre. D'ailleurs, la paroisse avait payé sa tombe, tellement elle n'avait pas d'argent, mais elle priait tout le temps pour nous. Et si je suis devant vous, c'est le fruit de ses propres prières d'il y a, je ne vais pas vous dire combien d'années. Oui, près de 60 ans après, j'ai calculé quand même. Parfois aussi, j'ai été un peu surpris de rencontrer, ils ne sont plus tout à fait jeunes, des jeunes que j'avais au groupe de jeunes, dont un qui est pasteur, qui me disait « Tu as été un père spirituel pour moi, ah bon ?» Je crois que ce qui compte, c'est de ne pas être un gourou. C'est vraiment important d'être une exemplarité de Christ. Et puis, nous ne sommes pas un père spirituel indéfiniment. Nous passons dans une exemplarité de Christ, chez les uns et chez les autres, un peu par des circonstances que Dieu permet. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et j'aime beaucoup répéter ceci, le chemin est toujours précède la vérité et la vie. Le chemin, c'est l'expérience personnelle qui va inscrire la vérité dans ta vie chrétienne. L'expérience en Christ, ce n'est pas d'attendre les épreuves pour voir ta foi, mais c'est de sortir de ta zone de confort, notamment dans le cadre de l'évangélisation et de la mission. Moi, mes exemples de père, c'est dans le coude à coude, en mission, en camp de ski, en camp d'enfants, en jeûne et même en Afrique ou en Roumanie, ou même à Arzier. Donc Timothée, Tite et les autres, c'est dans la proclamation de l'évangile avec l'exemple de Paul qu'ils ont appris de lui en le regardant agir. Je me souviens d'un week-end avec Pierre Truchel où, après un enseignement du matin, nous nous sommes retrouvés l'après-midi dans l'ancienne église à Bâche 2, où il a partagé avec nous ses exemples de foi. Et puis, à un moment donné, il a dit, ben moi, par exemple, j'ai le don de la foi pour prier pour ceux qui ont mal au dos. Et il a demandé, qui c'est qui a mal au dos? Et je crois que sauf erreur, c'est Suzanne Bess, qui a dit qu'elle avait mal au dos. Alors il l'a fait asseoir, il lui a fait tendre les jambes, et puis on a vu qu'il y avait un décalage d'au moins 2 cm entre sa jambe gauche et sa jambe droite. Et il a dit, ben, on va prier pour que sa jambe se rallonge, et après elle n'aura plus mal au dos. Et en effet, on a vu, au nom de Jésus, j'ordonne à cette jambe de se rallonger. Au moment là même dépassé, il a fallu commander à l'autre jambe de s'égaliser. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, super. Et puis, le soir même, il y avait une réunion. Et puis, à la fin, je ne sais plus comment, il y avait une prière. Et j'avais un des jeunes, Samuel Margot, pour ne pas le nommer, qui avait très mal au dos. J'ai dit, ouf, alors attends, essaye de te voir sur une chaise. Et en effet, il avait vraiment la jambe de 2 cm, en tout cas, qui était décalée par rapport à l'autre. Et là, j'ai dit, oh, j'ordonne au nom de Jésus, comme Pierre Truchel l'a prié tout à l'heure, que cette jambe se rallonge. Puis il y avait plein de jeunes autour d'eux. Et tout d'un coup, la jambe s'est rallongée. Wow, ça, c'est le chemin. Quand vous serez en Roumanie, c'est ça que vous allez vivre pour les jeunes. Alors, ma conclusion, c'est souvent une question. Alors, peut-être que dans ta propre généalogie humaine, tu ne sais sans doute pas qui sont tes arrière-grands-parents, j'imagine. Peut-être même tu as perdu de vue tes propres parents biologiques. Sûrement, comme nous tous, il y a eu des drames dans ta généalogie humaine. Moi, je sais que quand j'étais enfant, ma mère, mon grand-père avait été assassiné par des Cosaques en Russie. Alors ma mère disait à ma grand-mère, « Mais regarde, il a les yeux de papa, quand j'étais gamin. C'est fou ce qui lui ressemble. » Puis je me posais des questions, je me disais, « Mais c'est qui ce grand-père qui a été assassiné par des Cosaques ?» Il est mort à 35 ans. Et au point que je craignais qu'à 35 ans, il m'arrive quelque chose. Heureusement que la bénédiction de Dieu était là. Mais tout ça s'est effacé en Christ. Tous ces drames sont... Alors, tu ne connais pas ton histoire, tu ne connais pas peut-être tes grands-parents, mais aujourd'hui, en tant que racheté en Christ, et peu importe ton âge, comme je l'ai dit, qui est ta mère spirituelle pour les féminins et qui est ton père spirituel pour les hommes. Et surtout, pour qui tu es une mère spirituelle et pour qui tu es un père spirituel. Et ceci en tout premier dans la prière. Est-ce que je prie pour un jeune, un plus jeune que moi, ou une plus jeune que moi, incognito? Nous devrions tous avoir à cœur quelqu'un de à cœur dans la prière, dans cette église. Posez-vous cette question devant le Seigneur, pour prier pour lui, sans forcément, j'ai dit incognito. Avant de partir en Roumanie cet été, les jeunes vous donnaient deux sujets de prière à Christine, qui trouvera des plus aînés qui prieront pour vous, incognito. Et puis après, vous témoignerez de ce que vous aurez vécu au culte, quand, sur le terrain de la mission là-bas, et ça réjouira toute l'Église qui aura prié pour vous régulièrement chaque soir. C'est cela le panier, c'est cela l'Église de Jésus-Christ que lui-même vient chercher. Alors ce matin, tu repars avec cette double question, qui est mon père ou qui est ma mère spirituelle et pour qui fut-il jeune, pour qui suis-je un père ou une mère dans l'intercession. Amen. Je vais juste prier encore. Seigneur, je crois que cette question de la transmission, ou en tout cas de la prière transgénérationnelle, qui nous responsabilise en tant que mère ou père spirituel, souvent d'une manière inconnue, mais aussi dans l'exemplarité que tu nous demandes d'être en Christ, je crois que c'est une des clés pour notre Église. Et je te prie pour que tu nous responsabilises sur cette question, pour que nous soyons pas forcément des leaders, mais des gens de l'ombre qui ont un cœur à cœur avec toi et un cœur à cœur avec des frères et sœurs qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de te connaître un peu mieux, qui ont besoin d'évoluer, qui ont des défis. Je pense en particulier les jeunes, la jeune génération d'aujourd'hui. Alors, pose dans nos cœurs, Seigneur, peut-être pas des noms, mais en tout cas un intérêt et un zèle pour prier pour la génération qui est avant nous, ou après nous plutôt, et de façon à ce que ce panier de l'Église puisse être tissé et à jamais terminé jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, amen.